J'ai amené des petites notes, mais habituellement, ça va de façon assez naturelle là, quand je présente. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir jaser avec les gens. Fait qu'hésitez pas à m'arrêter n'importe quand pour poser des questions. Le but, quand j'ai lancé ma marée Tapster, c'était vraiment ça, en fait, un but de partage, un but de faire connaître des choses aux gens, discuter. Donc, n'hésitez pas. J'aimerais ça que ça soit une discussion. Évidemment, j'ai des choses à dire, mais moi, je parle beaucoup dans la vie. Fait qu'arrêtez-moi à un moment donné si vous voyez que ça déborde. Et donc, à l'invitation de Sophie, je viens vous parler de Ma mère est Tapster, qui est un... Ça fait un peu drôle d'être invitée pour parler d'un blog qui est décédé maintenant. Mais vous allez comprendre un peu pourquoi je vais faire le parcours de comment ça s'est passé et tout. Je l'ai comme divisé. J'ai fait un titre. Sophie m'avait demandé un titre de conférence. Puis j'ai appelé ça « Entre blog, curation web et slow media ». Parce que c'est vraiment les trois passages vers lesquels... a passé Ma mère est Tapster. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait pour se construire jusqu'à devenir ce que c'était en dernier, jusqu'à temps que ça ferme. Et c'est ça, on pourra reparler aussi des raisons pourquoi ça a fermé. Moi, je voulais vous parler un petit peu, là, c'est sûr que le temps va filer rapidement, là, mais du milieu de la critique en ce moment, du milieu de la culture. Mais bon, recommençons du début à la genèse de Ma mère est Tapster. Je commencerai peut-être, ça va être drôle à dire, mais en disant que je me suis toujours sentie un peu imposteur en partant ce blog-là, en partant quelques blogs que ce soit. En fait, j'avais été invitée avec Figura à participer au l'atelier de l'écrivain, le blog. Et j'étais invitée avec des gens, ça date de peut-être 2009-2010 environ. C'était à l'UQAM, puis j'étais invitée avec des gens du milieu littéraire qui avaient parti des blogs littéraires, comme par exemple... Geneviève Peterson, qui est Madame Chose, qui avait le blog Madame Chose, qui était à la presse et tout, ou Daniel Grenier, qui a sorti cette année L'année la plus longue, qui avait le blog Saint-Henri. Donc, j'avais été invitée parmi ces blogueurs-là, puis j'étais un peu comme... Ben, je ne sais pas trop ce que je fais ici, mais bon, j'ai un blog. Mais c'est un blog culturel, qui est devenu tranquillement un webzine, puis d'autres choses par après, etc., etc. Mais bref, je dis imposteur parce que c'est un blog, Ma mère est Tapster, qui a été parti en 2009 en premier de façon totalement anonyme. Mon nom était nulle part. Je ne voulais pas que personne sache qui j'étais en arrière de ça. Les gens qui venaient me parler m'appelaient ma mère. Puis, donner des petits surnoms comme ça. Puis, c'est vraiment parti. Moi, à ce moment-là, pour faire une histoire courte, je travaillais à DHCA. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une fondation d'art contemporain dans le Vieux-Montréal. Puis, le Centre Phi n'était pas ouvert dans ce temps-là, mais j'ai commencé à travailler sur le Centre Phi aussi. Donc, un centre... d'exposition qui est tenue par une mécène. Et j'étais là, puis j'étais beaucoup dans l'art contemporain. J'étais vraiment là-dedans. Moi, j'ai fait un bac en histoire de l'art, deux débuts de maîtrise en histoire de l'art, muséologie. Bon, j'ai fait toutes sortes de programmes et je m'ennuyais du contact avec le client, si je peux dire, parce que les années auparavant, j'avais été pendant 7 ans libraire, disquaire et responsable des magazines chez Archambault et chez Renommé. Puis, j'aimais beaucoup ce contact-là avec les gens pour dire, tu sais, à cette époque-là, c'est bien dur, mais il n'y avait pas tant que ça, les réseaux sociaux, pour nous suggérer des produits culturels. Bon, je mets toujours un bémol à produits culturels parce que ça fait un peu comme magasin, vente, mais ça revient à ça. Il y a quand même un prix à ces choses-là. Donc, ces éléments culturels-là, j'aimais ça les partager avec les gens. Puis, à ce moment-là, les gens venaient vraiment en magasin et suivaient le même libraire pendant plusieurs années, le même disquaire. Et c'est plus tout à fait comme ça. Maintenant, justement, on va sur les blogs, on va sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'on trouve nos suggestions. Mais moi, je m'ennuyais de ce contact-là, à cette époque-là, qui était encore présent, de discuter avec ces gens-là, puis dire « Oui, ça, vous avez lu ça, vous aimeriez probablement cette chose-là aussi, ça vaut la peine, etc., etc. » Donc, cet échange-là qui était possible et qui était plus possible dans le travail que j'avais à ce moment-là, bien, en art contemporain, mais... Je suis quelqu'un qui est un peu éparpillé puis qui aime parler de théâtre, de danse, de littérature, de toutes sortes de choses. Puis, juste restant en art contemporain, même si c'est un domaine qui est très, très large, je me sentais un peu restreint. Donc, j'ai décidé de partir sur ce blog-là en 2009, un peu par ennui de discuter avec les gens. Puis, c'était après une série de vraiment plusieurs blogs qui avaient été lancés. Pendant quelques années, j'avais le blog Chronique Hochelaguienne, qui était un blog qui se passait dans Hochelaga Maisonneuve, où je discutais de ce que je voyais dans mon quartier, où j'habite toujours d'ailleurs, que j'adore. Et c'était beaucoup plus littéraire, pas fiction tout à fait, parce que c'était des vrais éléments que je racontais qui se passaient vraiment dans le quartier. Mais c'était très, très varié et ça avait vraiment la forme du blog, c'est-à-dire une forme suivie. Quand on parle de blog maintenant, ça, disons que les formes changent un peu, mais le blog initialement, c'était vraiment 13 février, telle entrée, 14 février, telle entrée de données, et ça suivait, ça défilait comme ça. Alors que c'est ça, maintenant, c'est un peu différent. Ça va, des fois, ça peut prendre des formes de webzine et on appelle ça des blogs quand même. Sur les grands médias, quand même, en général, je pense que c'est un défilement ou c'est des sections par auteur, mais quand même. Donc voilà, j'ai essayé plein de blogs dans ce genre-là. J'ai même fait un blog à un moment donné, post-structure, j'avais appelé ça une petite fin du monde ou un truc comme ça. J'ai eu, je ne sais pas combien de blogspots que j'arrêtais pas d'ouvrir, puis je les laissais mourir sur le web. Comme ça, je laissais partir. Puis, je continuais encore à en faire. J'ai eu je sais pas combien de Tumblr après. Bref, j'aime ça partir des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, c'est ça. J'ai parti, ma mère était hipster, mais c'était vraiment pour moi, de façon anonyme. Je voulais pas que les gens sachent qui était en arrière de ça. Ça me semblait pas pertinent, ça me semblait pas important à ce moment-là. C'était sous la forme du blog, sur un blogspot. C'était tellement laid, l'interface. C'était vraiment. C'était juste. Il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. À ce moment-là, les gens qui étaient sur le web, qui faisaient des blogs, étaient vraiment sur Blogspot, LiveJournal ou DeviantArt. Je ne sais même pas si DeviantArt, il y a encore des gens là-dessus. Probablement. Je sais que ça existe encore, mais. Donc, je ne sais pas, j'ai lancé ma marée Tapster là-dessus en 2009 et je l'ai lâché quelques mois après, évidemment, dans cette lignée de blogs que je partais puis que je laissais mourir sur le web. Mais je l'ai repris un petit peu de temps après, en donnant une espèce de ligne de conduite, c'est-à-dire je partage des coups de cœur que j'aime là-dessus. Ça pouvait être des disques, des livres, quelques spectacles, mais c'est des spectacles que j'allais payer par moi-même, que je ne me faisais pas offrir par des relationnistes de presse. Donc, tout était fait par moi-même. À ce moment-là, c'est resté anonyme, je dirais, pendant peut-être un an et demi environ, où je faisais vraiment. Je me disais pas, il faut qu'une fois par semaine, il y ait des textes. C'était vraiment à l'envie. Si j'avais écouté un album que j'aimais, je le mettais dessus. Il n'y avait pas vraiment de structure et pas vraiment de calendrier de publication non plus. C'était vraiment au feeling, si on peut dire. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une relationniste de presse qui m'a contactée. Donc, jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas posé des questions très, très profondes sur ma mère était visiteuse, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une ligne éditoriale? Ben non, on s'en fout, c'est comme, c'est moi, c'était pour moi. Je n'avais pas l'impression que j'étais lue par tant que ça de monde. Mais j'avais un peu partie aussi, ce que j'ai oublié de dire, quand je parlais, j'avais été invitée avec l'atelier de l'écrivain, avec Daniel Grenier, ces gens-là, Amélie aussi, dont j'oublie le nom de famille, qui a un super blog intéressant qu'elle a tenu pendant comme 15 ans, qui s'appelle Albertine Bouquet. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur son site, là, mais notez ça vaut vraiment la peine. C'est ces gens-là avec qui je parlais. En fait, les réseaux sociaux, on ne les utilisait pas tant que ça, mais on allait commenter sur les blogs de chacun. Donc, c'était un peu comme l'ancêtre, entre parenthèses, de Facebook. On allait aimer sur le site l'article. Il y avait un bouton j'aime sur l'article qui n'était pas lié à Facebook, mais qui était directement là. Là-dessus, je me rappelle, on attendait, je pense, avec Daniel Grenier, entre autres, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, on attendait vraiment, on rafraîchissait notre page pour attendre quand le commentaire allait rentrer. C'était important pour nous, cet échange-là. On était comme, yeah, Daniel l'a vu. Fait qu'on s'écrivait à peut-être une quinzaine de blogueurs ensemble sur la blogosphère qui se parlaient comme ça. Donc voilà, c'était un peu notre échange et ça a été lancé pour ça. Puis moi, je pensais que j'étais lue par ces 15, 20 personnes-là maximum. Et c'est ça. À un moment donné, une personne, une relationniste de presse, qui m'a donné ma première chance, en parenthèse, d'être invitée à un spectacle, au même titre qu'un journaliste professionnel, en fait. Moi, ma mère était hipster, le but avait jamais, jamais été que ça devienne gros puis que ça devienne un média en tant que tel. Moi, c'était vraiment un blog, un petit blog personnel pour moi. Donc, elle m'a écrit puis elle m'a dit: Salut, je suis ton blog depuis un certain temps. Je trouve que tu écris bien, j'aime bien comment tu critiques les spectacles et tout. Est-ce que ça tenterait de couvrir un spectacle qui se passe à la 5e salle la semaine prochaine? J'ai fait comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ben OK, moi je suis une curieuse, je me suis dit, je vais me lancer, pourquoi pas? C'est drôle à dire, mais cette première proposition-là a changé beaucoup de choses pour ma mère et Tapster parce que là, je rentrais dans une autre ligue, disons. Là, j'étais invitée comme une journaliste professionnelle. Au même titre, j'étais installée avec eux autres pour la première fois. J'étais un peu comme, pas impressionnée, mais je suis comme, comment ça marche? Je sais pas trop, j'étais un peu perdue. Et donc, ça pose la question, est-ce que quand je me fais remettre un billet comme ça, à quoi je m'engage? Qu'est-ce que je dois donner après? Est-ce que c'est obligatoire, quand on dit oui à un show comme ça, de donner un billet après, d'écrire une critique? Ou je peux juste prendre le billet puis faire comme, whatever, j'ai un bon show puis c'est le fun? C'est quoi ma ligne éditoriale? Est-ce que ce show-là correspond à ce que je vais voir habituellement? Je ne savais pas, là. C'est des questions qui ont popé comme ça après. Qu'est-ce que je m'étais demandé d'autre aussi par rapport à ça? Bref, plein de questions sur cette ligne éditoriale, comment ça marche, des questions d'éthique aussi. Comme je disais, si j'accepte un billet, est-ce que ça va automatiquement avec? Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Tu reçois des billets, tu ne fais pas nécessairement une critique. Ou, je pense, dans le domaine des livres, entre autres, des livres, ça prend vraiment du temps à lire. Donc, les relationnistes de presse dans le milieu littéraire sont un peu plus, ils laissent un peu plus de temps et tout ça. Ils font moins des suivis serrés que dans le milieu de la musique, par exemple, où 5 minutes après qu'on ait reçu 10, on comme l'a-tu écouté? T'es comme, ben là, non, j'ai pas eu le temps, ça fait 5 minutes à peu près, là. Mais ça arrive vraiment pour vrai parce qu'en plus, parenthèse, ils ont des lecteurs pour savoir qui s'est connecté à SoundCloud mm-hmm. et qui est dessus et tout. Fait que t'es vraiment surveillée. Ça a l'air un peu Big Brother, là, ce que je dis, là, mais c'est pas ça. Bref, c'est ça, ça a posé ces questions-là, puis ça m'a un peu permis d'installer les balises, en fait, de ma mère et Tabster. Donc moi, je me suis dit à ce moment-là, mon éthique, ma façon de fonctionner, ça va être si on me donne quelque chose, je donne quelque chose. Je veux pas juste prendre le billet. Puis c'était important pour moi parce que je me suis dit, ben ça coûte cher des billets de spectacle. Il y a plein de gens qui sont pas capables de s'en payer dans la vie. Et pour connaître plein de gens dans le milieu culturel, des gens en théâtre entre autres, c'est pas très payant être comédien. Mais ça dépend. Si vous êtes des vedettes, puis même à ça, c'est encore drôle. Il faut que vous fassiez de la pub pour que ça rapporte. Là. Mais pour connaître des gens qui sont à peine payés, ils font une soirée de 3 heures de performance sur une scène, puis ils vont recevoir comme 150$, 200$. Ou des compagnies de théâtre qui sont comme « Yeah, on a fait nos frais, mais avez-vous été payé? » »« Non, mais on a fait nos frais. » Je me dis, soit je vais payer, soit je vais redonner au moins quelque chose pour faire connaître ça. Et donc, je me suis dit, je donne toujours une critique, mais ce n'est pas de la plug pour autant. Ce n'est pas parce que je reçois un billet que je me dis, OK, il faut que j'en parle, mais je vais dire, oui, il y a cette pièce à la 5e salle, voilà les infos. Moi, je copie-colle des communiqués de presse, ça ne m'intéresse pas, je ne trouve pas ça intéressant. Donc, il y a ça, puis la question qui est arrivée aussi, c'est, moi, je suis allée voir la pièce, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis obligée de dire que j'ai aimé ça? Ça a l'air niaiseux comme question, mais beaucoup de critiques se demandent ça au début. Est-ce que je suis obligée de... À quoi on est obligé, en fait, en tant que critique? Et je pourrais vous en parler longtemps, là. La critique au Québec, c'est pas très bien vu. Et on associe souvent la critique négative, en parenthèse, ou constructive, à de la méchanceté, ce qui est deux choses complètement différentes. On pourra en reparler. Je me suis dit, même chose, et ça rejoint la question d'éthique et la question de la ligne éditoriale, je serai transparente. Je serai honnête et transparente sur ce que j'ai vu, parce que j'ai commencé à écrire la critique, puis comme je me disais, ben là, peut-être, vu qu'elle m'a invitée, je suis obligée de dire que j'aime ça. Je suis comme, mais non, ça n'a pas rapport, ça marche juste pas, puis je suis pas capable de mentir, puis j'ai pas aimé ça. Et c'était aussi un challenge parce que moi, je viens du milieu de l'histoire de l'art. Je ne suis pas critique à la base. Je le suis devenue. Je mets des parenthèses parce qu'il n'y a pas de formation de critique dans la vie. Vous n'allez pas à l'école de la critique, ça n'existe pas. Fait que je me suis un peu auto-construite comme critique. Et en histoire de l'art, le principe, c'est que je ne sais pas s'il y en a qui ont fait histoire de l'art, qui ont eu des cours en histoire de l'art. Non, c'est OK. Je me suis basée sur une grille d'analyse qu'on reçoit, en fait, quand on est en histoire de l'art. C'est la première session, on se fait donner un beau papier qui est une grille et qui dit comment analyser une œuvre. Et c'est simple, c'est en 3 parties. C'est l'analyse plastique, qu'est-ce qui se trouve devant moi. Donc, est-ce que c'est une toile, est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est une performance, est-ce que... peu importe. L'analyse iconique, ensuite, c'est-à-dire les symboles qui sont représentés. Est-ce que, OK, c'est une toile, est-ce que c'est un être humain qui est dessus, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est une nature morte, est-ce que j'ai des symboles dans cette œuvre-là qui me permettent de savoir ça a été fait à quelle époque, qui est dessus, ah, c'est un portrait, la personne a une couronne, bon, royauté, etc., etc. Et ensuite, on fait l'interprétation. Donc, trois trucs comme ça que j'avais en tête. Après un bac au complet, tu es habitué d'analyser des œuvres. Alors, je me suis dit, c'est la première fois que je vais au théâtre pour faire une critique vraiment qui est attendue, puisque je suis considérée comme une journaliste. Je vais le faire vraiment comme il faut. Bien, c'est simple, j'ai utilisé la même grille. J'ai utilisé la même grille d'analyse. Même chose quand on m'a proposé un premier spectacle de danse à couvrir. J'ai jamais fait de danse dans ma vie. J'avais vu des spectacles de danse, mais en tant que spectatrice, il y a une grande marge entre voir un spectacle et après écrire dessus. Il y a vraiment une grande marge. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a permis de savoir comment faire de la critique de plus en plus solide. Mais c'est sûr que je ferai une critique maintenant, puis une critique en 2010. L'année d'après que j'ai parti à Mary Tester, je relis mes textes des fois, puis je suis comme, hey boy, il y a du chemin qui s'est fait entre-temps, mettons. Mais ça a posé un peu les balises de ma Mary Tester, qui est devenue à ce moment-là un blog reconnu, entre parenthèses, parce que la relationniste de presse a pris le texte et m'a dit, écoute, c'est super, c'est cool, t'as bien expliqué pourquoi t'as pas aimé ça, je le mets dans mes coupures de presse et ça va être sur le site web. Et c'est rare, c'est pas rare, c'est-à-dire... c'est rare qu'on utilise des critiques mitigées, mettons. T'sais, vous allez voir sur les posters de films, ça va être « Mon Dieu, 5 étoiles, c'était merveilleux, Madame Chose, de je sais pas quoi. » Puis, ça va pas être marqué « C'était un film correct, mais qui a... » Non, ils veulent que ce soit dithyrambique, ils veulent que vous y alliez. Donc, j'étais quand même surprise qu'elle se permette de mettre ça à côté d'autres critiques. Donc, c'était... Je me rendais compte qu'il pouvait y avoir de la nuance. Donc, c'était important pour moi. Je vais boire un petit peu. Je commence à manquer de voix. Là, je vous pitch pas mal d'informations, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette genèse, entre parenthèses, de ma mère était habituée? Ça va, je suis quand même.
Oui,
je peux.
Non,
vas-y.
C'est juste un commentaire, mais c'est vraiment moi, je me demandais s'il y avait justement une certaine culpabilité quand on donne des billets, puis tu n'aimes pas ça. Je comprends qu'on sent mal de critiquer, mais ça, c'est intéressant de voir qu'ils acceptent quand même la nuance, puis que.
Ben, ça dépend à qui, je te dirais. Ça dépend à qui. On pourrait avoir une longue conversation seulement sur la critique et sur... Ben, en plus, là, on parle vraiment d'une époque où les blogueurs commençaient à être considérés. Tu sais, comment je pourrais dire? J'étais dans les premiers blogs culturels qui étaient invités dans des événements d'importance. Là, je mène, tu sais, importance, c'est toujours relatif selon... C'est qui parle, mais les blogs avant n'étaient pas considérés du tout. T'es un blogueur, c'est comme, ben non, je vais pas t'inviter à un show au TNM, c'est pas vrai. Maintenant, ils font des soirées pour les blogueurs. Ils font des soirées pour les influenceurs. Ils font... maintenant, en fait, t'as même pas à remettre un produit. En fait, c'est un peu faux, là, mais dans le sens que tu peux faire un post Instagram, puis on va être heureux. Tu sais, je veux dire, je pense, Valérie, tu le sais, ton petit look, ils sont très forts là-dessus. J'ai des bémols, on pourra en parler, mais bon. Mais c'est vrai, on est invité, mettons, il y a des soirées où tu peux être invité, puis tu es invité pour être seulement là. Moi, j'ai toujours refusé ce genre de choses-là. On me l'a proposé. Moi, les courriels qui commençaient comme « Il y aura salut, est-ce que ça tente de venir couvrir le tapis rouge, faire une couverture déjà de tapis rouge, où c'était fini, là. » Mais ça ne m'intéresse pas pantoute. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, c'est juste que moi, personnellement, ça ne me parle pas. La vie de Marine Orsini, ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a plein que ça les intéresse, puis c'est correct. Puis il me disait, il y aura plein de vedettes québécoises, on aimerait ça que tu y sois. Ben, c'est ça, moi, pour moi, ça finit là. Mais ils parlent moins, il y a un petit show à la Sala Rosa, ils sont complètement inconnus. Ils font de la musique depuis 3 ans dans leur garage, mais ils ont vraiment du talent. OK, je vais aller les voir, je vais savoir c'est quoi. Mais des artistes déjà établis avec une grosse carrière et tout ça, ça ne m'intéressait pas. Bref, oui.
Bien, pour être dans cette vie-là, j'imagine que, justement, les événements qui sont destinés à un grand public, ou, qui concernent les vedettes, qui vont faire vendre le lundi, ou éco-vedettes et tout ça, ouais. Ben, les blogueurs vont être davantage invités dans ce type d'événements-là que des événements plus obscurs, non? Parce que, si on compare avec le milieu littéraire, parce que tu nous parles beaucoup du milieu culturel, mais dans le milieu littéraire, en fait, les blogs ne sont même pas encore reconnus par l'institution universitaire. Donc, je me disais, ben, probablement que justement, Céline Dion qui chante aux American Music Awards, c'est le type de performance, disons, à l'échelle du Québec, qui va être davantage, qui va davantage attirer.
Oui. Ben, ils vont vouloir, en fait, je ne sais pas si c'est tant des blogueurs, mais des influenceurs. Parce qu'il y a quand même une différence. Il y a des influenceurs, je veux dire, j'imagine, vous en suivez aussi, il y a des influenceurs qui, essentiellement, ne font pas grand-chose. Je veux dire, ils n'ont pas de produits tant que ça, puis ils n'ont pas de... Tu sais, je veux dire, j'en vois, je ne veux pas nommer personne parce que je ne veux pas taper sur personne, mais j'en vois qui ne font que des photos Instagram ou qui se prennent en photo sur Instagram. Puis quand je cherche un produit ou un site qu'ils ont à offrir, je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont influenceurs. Fait que là, je viens de comprendre que, OK, c'est beau. Et ce sont eux qui ont une importance dans une certaine société, pas dans la société au complet, mais dans un certain domaine, et ils sont invités là pour aller... influencer les gens. Mais c'est un terme, en ce cas, je trouve ça un peu absurde. Vas-y. Je ne sais pas si ça répondait. Excuse-moi à ta question. Oui, OK, parfait.
Là, ce serait comme un peu aller dans ce thème-là. En fond, le site de votre blog, comme vous avez dit, vous avez commencé juste comme ça, mais en vrai, j'imagine que vous avez commencé à avoir des clients aussi. C'était pas juste...
Oui, malgré moi.
Mais comment vous avez... comment vous avez fait pour... Parce que je ne savais pas vraiment comment ça se faisait dans le temps. Tu sais, dans Facebook, tu fais share, puis plein de gens, c'est plein de publicités.
Oui, c'est ça, tu as un réseau.
Exactement, ouais. Dans le temps, je ne sais pas comment ça se faisait plutôt pour que les gens puissent être atteints.
C'est une bonne question parce qu'il n'y avait pas de réseau tant que ça. Tu sais, quand c'est parti, comme je dis, oui, Facebook et Twitter ont été ouverts en 2006, mais je veux dire, c'était les early birds là, qu'on appelle qui étaient là-dessus. Moi, je n'étais pas là-dessus pantoute. Puis, donc oui, effectivement, il n'y avait pas de réseau tant que ça. Il y avait un mini-réseau dans une blogosphère, ceux dont j'ai parlé tantôt, là, peut-être une... Je sais pas, au Québec, peut-être que Sophie, tu serais plus une cinquantaine à peu près de blogueurs, là, littéraires, variés, culturels, pas tant que ça non plus. Mais donc, c'était ce mini-réseau-là. Mais tranquillement, ce qui s'est passé, c'est que, entre autres, après les propositions que j'ai eues, j'en ai eu une première, j'en ai eu quelques-unes, moi, j'ai changé mon blog pour aller migrer vers un WordPress. C'est niaiseux, mais visuellement, j'ai arrangé mon blog pour qu'il ait l'air plus professionnel. Donc ça, c'était une carte de visite qui était beaucoup plus alléchante pour les gens qui venaient sur le site. Parce que quand tu tombais sur un blogspot avec des photos un peu pic-pic, les gens étaient comme, c'est quoi ce blog-là? C'est comme, ça n'avait pas l'air de qualité, tu sais. Fait que j'ai un peu changé ça. Puis ça, ça m'a permis d'accéder. Puis le pire, c'est que c'était même pas... Le but n'était pas d'aller chercher ces gens-là, mais c'était plus que moi, je le trouvais, mon site, je vais le changer. Mais ça a quand même changé des choses que les gens ont fait, OK, ça a l'air d'un site professionnel, je vais la contacter. Et les textes étaient révisés et tout ça. Oui, les réseaux sociaux ont embarqué après aussi, mais ça a été un réseau à construire de A à Z, là, au complet. Là. T'sais, tranquillement, après, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, puis les gens ont commencé à me connaître sous... D'ailleurs, mon Facebook, d'abord, était sur « Ma mère était hipster ». Je voulais pas que mon nom soit là. Mais c'est ça, mon nom, tu vois, c'est venu à un moment donné parce que les relationnistes me contactaient, puis ils étaient comme « Mais t'es qui? Ma mère était hipster, c'est qui? » Puis à un moment donné, j'étais là « OK, je pense qu'il va falloir que je le dise. » Mais ça m'écœurait vraiment parce que j'aimais, je trouvais très confortable cette situation d'anonymat en arrière qui faisait que... ça va être bête, là, mais on me foutait la paix. Je faisais mes petites affaires, mais on me foutait la paix. Tu sais, maintenant, je veux dire, sur Facebook, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'aille en message privé. « Salut, mon disque vient de sortir, gnanana. » Puis je suis comme « Non, j'ai une adresse courriel. » Tu sais, je ne suis pas tout le temps en train de... Tu sais, puis le fameux Facebook, le crochet qui apparaît, là, tu sais, que j'ai vu ton message. « T'as vu mon message? » »« Oui, mais je ne veux pas répondre tout de suite. » Fait que souvent, je fais des « mark as unread ». Sachez-le. Mais non, mais c'est pour, parce que c'est ça. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'une effervescence qui s'est passée tranquillement avec ce blog-là. Mais comme je t'ai dit, malgré moi, c'est tellement parti tout petit, j'aurais jamais pensé, jamais, qu'on m'aurait invité m'amener à Radio-Can pour dire « Salut, t'as le blog, ma mère est hipster, on aimerait ça que t'en parles. » Puis déjà, ça me semble... je veux dire, je suis super heureuse d'être ici, mais ça me semble toujours un peu absurde de venir parler de ça parce que je suis comme, mais je l'ai tellement lancé avec aucune prétention, jamais, tu sais. Fait que ça s'est fait comme ça, puis je pense que ce que les gens ont apprécié et ce qu'ils m'ont répété souvent, c'est le fun parce que tu te prends pas au sérieux. C'est le fun parce que il y a une qualité dans les écrits, puis il y a une... J'ai toujours préféré la qualité à la quantité. Tu sais, moi, arriver avec « Hey, il faudrait vraiment qu'on ait deux textes par jour », puis tu dis « donc comment, si tu as un job temps plein, tu peux réviser tous ces textes-là, c'est à aucun sens, ça marche pas, là, tu sais. » Fait que, je sais pas, je bifurque, là, mais je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, c'est vraiment un réseau, tranquillement, puis à un moment donné, hop, t'es invité à Radio-Can, hop, t'es invité à telle place, puis les gens, tranquillement, ils font « Hey, ben, il est bon, ce blog-là, il est le fun, tu sais, va donc voir là-dessus. » Puis on n'a jamais... J'ai jamais eu de pub sur mon blog. Jamais, jamais. J'ai toujours refusé qu'il y ait de la pub dessus. J'avais une page, j'ai encore une page Facebook que des fois j'envoie certaines affaires, puis c'est qui s'est bâti tranquillement, mais j'ai jamais sponsorisé une publication, un exemple, pour être sûr que tout le monde la voit, puis ce texte-là, il faut que... Non, non, il vivra sa vie sur le web, puis ce sera ça. Donc voilà, c'est un peu la posture que j'ai décidé d'avoir, puis qui est restée jusqu'à la fin. Mais vers la fin aussi, faut le dire, les demandes pour faire de la publicité des associations étaient quotidiennes, tout le temps. Des choses comme on me demandait aussi, il y a une grande compagnie québécoise culturelle que je nommerai pas qui m'a contactée puis qui m'a dit ce serait le fun sur votre site qu'on fasse une collaboration, mais ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dans la section danse, dans la section danse, on vous créerait un texte. C'est nos relationnistes de presse qui vont faire un texte. OK. Déjà, relationniste de presse qui fait un texte, tu n'es pas journaliste. Ce n'est pas la même chose. Un communiqué de presse et un texte journalistique, deux choses. Bref, ils nous proposent un texte, puis vous le mettez sur votre site, puis vous le prenez comme si c'était vous qui l'avez écrit. What? Je veux dire, c'est pas une dompe à pub, là, notre site. C'était comme du... comment ils appellent ça? Un peu du native advertisement, mais pas vraiment branded. En tout cas, non. C'est comme non, non. Tu sais, fait que... Puis je sais qu'on pourrait y aller vers d'autres blogs qui ont accepté de faire ça, puis c'est correct, ils ont leur raison de le faire, mais moi, ça a été vraiment important. C'était un espace de liberté, en fait, que j'ai créé et qui est devenu tranquillement, pas vite, putain libre, étant donné cette pression-là qui était présente. Puis c'est pour ça que je reviens... En tout cas, je pense que ça a répondu un peu, grosso modo. J'en suis venue, ça je disais que j'ai séparé la présentation en trois, mais j'en suis venue aussi à un moment donné, je passe un peu la curation web pour y revenir, mais à l'aspect slow média, parce que plus ma mère était hipster s'est mise à être connue, et plus les demandes, comme je disais, arrivaient de façon quotidienne, à un moment donné, je suis retournée, je ne vais plus sur mon adresse ma mère était hipster sur Gmail depuis vraiment plusieurs mois, puis j'étais arrivée dessus à un moment donné, je pense que j'avais 10 000 courriels, puis j'étais comme... Wow. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai même pas fait de tri dedans. J'ai fermé, j'ai fait off. Puis ça me tentait pas. Puis c'est pas, voyez-le vraiment pas comme un manque de respect envers les relationnistes qui font une job que je ne ferai jamais. Bravo. Ils sont bons de répéter « Allô, as-tu vu mon... » Puis t'as juste le goût de leur dire « Oui, puis je m'en fous. » Des fois, j'ai le goût de leur dire « Enlevez-moi de toutes vos listes, s'il vous plaît. J'haïs ça, c'est trop d'affaires. » Parce que c'est trop. C'est trop d'informations. Puis à un moment donné, ce qui fait qu'on a décidé, nous, de faire un virage slow média, qui n'a pas été très long parce qu'on a arrêté pas longtemps après, c'était que la demande était trop intense. Puis oui, à force d'être connue, on s'est mis à avoir de plus en plus de collaborateurs. Les gens m'écrivaient pour dire « Est-ce que je peux écrire avec toi? » Parce que je l'ai fait 3 ans toute seule. Je ne sais plus comment j'ai fait parce que pour vrai, des fois, je couvrais 3 spectacles par soir. Mais tu vois, j'étais prise aussi... Comment je pourrais dire? J'ai été prise aussi dans cet engrenage moi-même, parce qu'à un moment donné, tu as telle affaire, mais quand les choses t'intéressent profondément, puis tu as envie d'aller voir des spectacles, c'est là à ta portée, puis tu te dis, ah, je pourrais critiquer ça, ça serait tellement intéressant, faire des liens avec telle affaire. Fait que tu te retrouves. Mon agenda, j'avais une job temps plein, là, dans laquelle je faisais du 40, 45, 50 heures semaine. Plus, je partais, je soupais super vite la job. Je m'en allais au Francofolie. Je couvrais 3-4 shows, j'écrivais dans la nuit. Puis, je mettais ça sur le site, puis j'allais me coucher, puis j'allais travailler. Même chose tous les jours comme ça. Mais mon agenda était booké, booké, booké. J'ai fait ça pendant 3 ans. Honnêtement, je ne sais pas où j'avais pris l'énergie. Je ne serais plus capable de faire ça. Mais bref, il a fallu à un moment donné, avec la demande, prendre des collaborateurs. Bien, je dis, il a fallu. Ça a été une décision. Je l'ai pris, comment je pourrais dire, je l'ai pris un petit peu... avec réticence au début parce que je me suis dit « Ah non, je vais perdre l'essence de ma mère était hipster. » Puis tu sais, je le faisais tout seul, c'était un peu mon bébé et tout ça. Mais plus j'en parlais avec les gens, plus les gens disaient « Non, mais avoir d'autres points de vue. » Puis comme tu veux faire des dialogues, des échanges, ça pourrait être des textes à quatre mains, ça pourrait être des podcasts, ça pourrait être... Donc, j'ai fait « OK, allons-y. » Puis on s'est ramassé à un moment donné, on était au plus fort de ma mère était hipster, on était quand même 30 collaborateurs. Donc, 30, ça veut dire que, y compris mes textes, y compris mon co-rédacteur-chef à ce moment-là, Mathieu Charlebois. Si vous ne connaissez pas Mathieu Charlebois, suivez-le sur Facebook et sur Twitter. Il est hilarant. Il est tellement drôle. Journaliste à l'actualité pendant 5-6 ans à peu près. Il fait beaucoup d'humour maintenant. Et il est vraiment très bon. Et donc, imaginez, il faut être 30 corriger tous ces textes-là. Et nous, on était extrêmement piqués sur les textes, extrêmement difficiles, autant sur la façon de s'exprimer, autant sur les fautes. Fallait pas qu'un texte parte avec des fautes, ce que je vois quand même souvent sur plusieurs blogs. Puis je comprends, ils n'ont pas tout le temps de faire la révision. Pour travailler dans les médias maintenant, maintenant je travaille au Bazomag. J'ai travaillé pendant... le Bazomag, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le magazine de Bazo TV. J'ai été chef pupitre de la section musique chez Nightlife. J'ai travaillé un an chez Châtelaine. Je sais comment ça marche. Et des salles de révision, des salles de rédaction, c'est des machines. C'est non-stop des textes. Tu sais, puis il y a des gens qui sont payés pour être correcteurs et réviseurs. C'est une vraie job. C'est pas, ça s'improvise pas. On était pas pire quand même, puisqu'on travaillait dans le milieu. Mais fois 30 personnes plus nos propres textes, c'était rendu une usine. C'était vraiment rendu une usine à production. Puis, pour le Slow Media, je me suis réveillée un matin, bien, tous les collaborateurs étaient fatigués, on avait des journées de fou, ça n'avait pas d'allure. Puis on faisait des longs textes, puis on était exigeants, mais ça, si tu es exigeant, tes textes prennent du temps. Ça prend vraiment du temps à faire. C'est long à écrire, c'est souffrant à écrire, c'est pas facile. Puis, je le dis, ça a l'air terrible, mais je veux dire, c'est quand même quand les gens disent « Ah, c'est facile, j'ai été contactée une année. Ah, tu pourrais me faire 3, 4, 250 mots sur telle affaire, ça va te prendre 20-25 minutes. » Pardon? Non, c'est comme si tu veux des bons textes. Si tu veux de la chenoute, fine, ça va me prendre 15 minutes. Mais si tu veux des bons textes, non. Plus t'écris court, plus c'est difficile. Bref, je me suis dit, ça suffit. Quand on a été pris dans... Je me suis posé la question, à partir de quand on a été pris dans cet engrenage de fou où on n'arrête plus, puis on avait un calendrier de production de débile, on était là, OK, puis les gens arrivent en retard dans leur texte. Allô, mon texte est à l'avance parce qu'il n'y aurait pas le temps cette semaine. Je me retrouvais avec 5 textes une même journée à publier, puis je disais, ouais, mais vos textes ne seront pas mis en valeur sur le web. Entre-temps, j'étais devenue gestionnaire de communauté, fait que je regardais comment ça se passait pour les mettre en valeur et tout. Bref, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit, je suis crevée. Soit je vire ça Slow Media ou soit je le ferme parce que ça n'a pas de bon sens. Et les Slow Media, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Slow Media. En fait, c'est des médias qui revendiquent la lenteur, qui revendiquent le fait de... on va prendre 4 mois pour travailler sur un dossier, puis c'est dans 4 mois que tu vas le lire. Puis oui, ça va être du long read, puis ça va faire 5000 mots. Pas grave, nous on prend le temps de le faire. Il y en a qui le font maintenant, je pense à nos amis, on a fait des collaborations avec ma mère et Tempster de À l'essai, qui est un blog webzine, je ne sais jamais comment dire ça, d'essai, très long. Eux, ils veulent faire vraiment du long sur le web. L'idée, c'était ça. C'est ça, le Slow Media, là, je le circonscris vraiment très rapidement. Il y en a plusieurs en France. Il y en a en Angleterre aussi. Il y en a pas tant au Québec, mais si on pense la revue Jeu, par exemple, ce sera un Slow Media. Je ne sais pas si vous connaissez la revue Jeu de théâtre, là. Excellente revue, là. C'est un Slow Media, en quelque sorte, parce qu'ils vont voir les shows, mais ça se peut qu'ils en parlent 4 mois après, parce qu'ils ont pris le temps de m'insérer, mais le show, il va avoir été vu parce qu'ils ont une thématique. Culture et théâtre, politique et théâtre, mais ils vont avoir pris le temps de... C'est un peu ça qu'on voulait faire, avec du Slow Media. Puis, fallait tout changer la structure parce qu'on était habitué de publier quotidiennement. Puis, c'est sûr que des fois, c'était un peu crève-cœur parce qu'on avait envie de réagir à des choses qui se passent maintenant dans l'actualité. On a fait certains coups de gueule sur le site. On ne pouvait plus vraiment le faire parce que ça allait plus que le Slow Media. Puis, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là d'aller voir un spectacle qui dure 3 jours et en reparler dans 6 mois alors que cette compagnie-là de danse était là pour les 3 jours seulement puis qu'après, ben, faudrait que tu ailles les voir en Ukraine, genre. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine? Mais en même temps, les questions qui se posaient, c'était, ben, peut-être, oui, ça vaut la peine. Est-ce qu'il faut tout le temps parler de quelque chose qui se passe maintenant, présentement? Puis, tu sais, il y a tellement de choses à faire. À un moment donné, il faut se poser sur les choses. Puis moi, j'étais tannée de cette... consommation un peu fast-food de l'actualité, de la culture, de ne pas se poser, tu sais, à un moment donné, j'ai comme une épiphanie, ça m'a paru absurde, je me suis dit, mon Dieu, c'est genre, je viens d'aller voir un spectacle de danse, que je dis la danse, puis j'en ai vu vraiment beaucoup, puis ces gens-là ont passé 5 ans à monter ce spectacle-là, avec leurs sous à eux autres, là, avec les moyens du bord, avec, et tu vas faire une critique que tu garoches en 1 heure en faisant, bah, c'était pas pire. Quoi? Non, ça marche pas. Pour moi, ça n'a aucune logique. Fait que Slow Media, le Slow Media s'imposait. Mais bien honnêtement, ça n'a pas été un échec, mais vivre à l'envers du monde complètement, c'est pas facile. C'est pas nécessairement facile. Premièrement, les relationnistes de presse nous haïssent. Ils nous aiment pas pantoute. Ben là, mon show, il est dans 2 jours. T'as été le voir jeudi passé. Qu'est-ce qui se passe? On est un slow média. Ça se peut qu'on en parle dans 1 mois. Ouais, mais c'est pas bon pour ma promo. Je ne suis pas relationniste de presse. Il a fallu que je le répète vraiment souvent, ça, des relationnistes de presse. Ça, c'est ta job. Moi, ça, c'est ma job. C'est 2 affaires différentes. Mais ça se mélange. Et je le comprends, les relationnistes de presse et les journalistes, d'être mélangés. Parce qu'à un moment donné, les deux se confondent. Les deux se confondent et de plus en plus. Tu sais, qu'est-ce qui devient de la plug? Qu'est-ce qui devient de journaliste? Qu'est-ce qui est un publi-reportage? Qu'est-ce qui est... Bon. Et bref, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être old school quand je parle comme ça. Parce que tous les médias font ça, tu sais. Puis, en tout cas, donc, pour nous, c'était comme... Pour l'équipe au complet, c'était vraiment absurde. Donc, on s'est lancé vers le slow media. Mais c'est ça. Ça a eu ses difficultés. Ça a duré un certain temps. On l'a testé. Ça a été éducatif. On a appris beaucoup sur comment ça peut fonctionner, justement, pas juste avec les relations de presse, mais pour le public, comment le public te suit quand le public de tous les jours est gavé à l'information de ce qui se passe, que tout le monde, ton fil de nouvelles Facebook au complet te parle de Oshiaga. Bon, en fait, il te parle plus du linge qui est porté à Oshiaga, mais ça, c'est une critique que j'ai à faire chaque année. À chaque année, Oshiaga, il faut que je fasse une sortie. Je ne sais pas les bennes qui jouent là-bas, mais je sais exactement le linge que tu vas porter, par exemple. Je comprends pas. De toute façon, mon jupon dépasse depuis le début. Là, je suis vraiment critique envers les médias. Je suis dans le milieu des médias. C'est probablement pour ça que je me retrouve dans un milieu comme Bazo TV qui est assez... comment je pourrais dire? Qui chiale, qui brasse des affaires. J'ai besoin de ça, tu sais, je veux dire. Puis la posture que j'ai prise aussi sur ma mère et Tempster, je savais très bien aussi... Ben, je dis que je savais très bien. Non, parce que je ne pensais pas devenir journaliste, mais... quand je me suis rendu compte que je me dirigeais tranquillement vers le journalisme, parce que moi, j'étais en histoire de l'art underway, là, je travaillais dans les musées, puis je m'en allais pas là pantoute. Quand je me suis rendu compte, puis j'ai commencé à être journaliste, puis à travailler pour des médias, c'était sûr qu'il y avait des médias pour lesquels je ne travaillerais jamais. Je connais plein de monde qui travaille au Journal de Montréal. Je serais mal à l'aise, personnellement, de travailler au Journal de Montréal, même si c'est une machine incroyable où tu apprends le journaliste. Ça va tellement vite que c'est une école... incroyable, puis il y a des super bons journalistes qui sont là-bas. Mais le sac de chips, ça s'appelle le sac de chips. Tu sais, ça le dit, tu sais. Puis des choses que je vois là-bas, moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la nouvelle éclair où il n'y a pas d'informations, puis c'est juste, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle maintenant, il faut être dans le coup, il faut être dans le coup. À quoi ça sert? Je veux dire, à un moment donné, quand tu as une surenchère puis que ton fil de nouvelles Facebook, je parle de ça parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux vu que ça fait partie de ma job aussi. Tu sais, si tout le monde me publie, c'est qui avait fait une sortie récemment que si tout le monde est au show de Jean Leloup, je veux dire, puis ton fil Facebook devient au complet, waouh, c'est donc bien beau puis tout ça, mais de quoi on parle d'autre? Je veux dire, il est bien bon Jean Leloup, il est bien, je pense que c'est un journaliste, je me rappelle plus, mais on parle tout le temps de la même affaire. Ça devient vraiment une surenchère, puis ça peut s'appliquer sur plein de notions autres que la culture, là. Les attentats de Paris, les, tu sais, c'est pas toujours bon la surenchère sur un même sujet, parce qu'à un moment donné, en plus, les réseaux sociaux, là, je déborde un peu, mais les réseaux sociaux sont là pour confirmer ton propre jugement. Fait que, tu sais, tu seras pas ami nécessairement avec, je sais-tu, moi, je serais pas amie sur Facebook avec Éric Duhaime, tu sais. Je veux dire, c'est pas un con, là, sauf que, tu sais, on n'a pas les mêmes visions pantoute, mais, tu sais, en même temps, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un de droite complètement comme ça pour me dire, ben, tu sais, moi, je pense de même. Mais c'est sûr que ton Facebook ou ton réseau, c'est peut-être moins Twitter parce qu'il est un peu plus varié, mais ton Facebook, en tout cas, habituellement, est pas mal axé sur ce que tu penses déjà et confirme déjà de ce que tu as, tu sais. C'est pour ça que quand c'est des élections, il y a un ménage de tes amis Facebook qui se fait à chaque fois. Tu sais, c'est toujours ça. Puis je mets les deux en lien parce que ce qui fait que je me suis occupée, que je suis devenue gestionnaire de communauté, c'est aussi le fait que je le faisais pour ma mère et Tempster, je l'ai fait ailleurs pour Centre Phi, DHR et tout ça, mais c'était un tout aussi parce que tout le monde maintenant sur les réseaux sociaux fait son propre petit éditorial. Vous êtes tous des médias à différents niveaux sur les médias sociaux. Si vous êtes, si vous êtes sur Facebook, je pense qu'il n'y a à peu près plus personne qui n'est pas sur Facebook, là. Moi, j'avoue, des fois, je rêve de ne plus avoir de Facebook parce que c'est très prenant, tu sais. Mais tout ça va ensemble. Bref, tu sais, je digresse un peu, là, mais tout ça va ensemble. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Parce que moi, je pars, puis je suis... Oui?
Mais en fait, moi, je voulais savoir, c'est quoi un webzine?
Je me suis posé la question vraiment longtemps, moi aussi. Je ne suis pas sûre de pouvoir te donner une définition très, très claire. En fait, quelqu'un m'avait dit, je pense, il est sur Twitter, j'ai oublié ce qu'il fait dans la vie, mais c'est Christian Liboiron, qui s'intéresse beaucoup aux blogs et à la vie des blogs et tout ça, qui m'avait dit, qui avait fait un article sur les webzines pour être classé dedans. J'avais fait « Ah, on est un webzine ». Et en fait, ce que ça disait, c'était un magazine sur le web. Webzine. Et c'est que les sections ne sont pas classées. C'est des sections qui ressemblent à un magazine. Comme si tu vas sur le site de Châtelaine, en exemple, tu vas en mode beauté. Nous, c'était théâtre, danse. Quand tu te mets à avoir des sections définies comme ça, ça devient plus webzine. Mais tu sais, si tu tiens fondamentalement à appeler ça un blog, je veux dire, tu as bien le droit, là. Mais c'est ça un peu le webzine, c'est la contraction des mots magazine et web ensemble, tout bonnement. Je ne sais pas si ça répond. Oui, OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. J'imagine que ça doit faire plus que 45 minutes. Que
non, mais okay. Si tu peux nous parler de l'archivage de tout ça. Mm-hmm. Ce que ça représente.
Oui, puis qui a failli disparaître à jamais en plus. Il est arrivé, en fait, je suis allée faire une conférence au Cégep Saint-Hyacinthe il y a quelques semaines, 2 mois à peu près. Et en ce moment-là, arrivait à terme mon abonnement sur le site web qui hébergeait ma mère était hipster. Et j'avais continué, mon ami et ancien collègue Mathieu Charlebois m'avait dit « Écoute, garde les archives pour au moins 2 ans pour que les gens puissent avoir accès et tout ça. » J'étais quand même « Mathieu, j'ai pris une entreprise québécoise pour les encourager, puis ça me coûte vraiment cher. » C'était vraiment cher l'hébergement par année, trop, alors que tout le monde est sur comme... HostGator pour genre 3 pièces par mois, mais en tout cas, je sais pas, c'était une question d'éthique encore. Fait que bref, et on avait beaucoup de stock, on avait énormément d'images, énormément, on essayait de les rentrer en bonne résolution, en bonne qualité, les textes sont longs, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Donc la question s'est posée parce que le professeur m'a dit, j'accède plus au site, il est comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, ouais, ben là, je l'ai comme... J'ai comme arrêté de l'héberger, puis je sais pas ce que je vais faire avec les archives parce que j'ai pas de place. Puis j'ai eu le bonheur, entre parenthèses, de lancer sur Facebook peut être utile quand même, dire salut tout le monde, je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment, autant je peux être bonne à gérer un site comme ma mère était hipster, mais l'arrière, là, genre des affaires de migrer un site, là, oh, j'haïs ça. C'est un des amis qui l'ont fait pour moi. Puis, bref, j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, avec toutes ces archives lourdes-là. Est-ce que ça peut être hébergé à quelque part pour moins cher? Est-ce que ça peut? Et il y a 2 personnes qui m'ont contacté. En fait, le journal Voir, Simon Jodoin, journal Voir, m'a dit, écoute, je pourrais peut-être t'aider. Je pourrais peut-être, puis je faisais partie aussi de trouble.voir.ca. Fait que ça allait comme de soi aussi. Puis finalement, c'est Bertrand Gerlet au laboratoire NT2. J'oublie toujours le nom complet du labo NT2.
Je leur ai parlé pendant toute la semaine.
Parfait, j'ai rien dit. C'est bon. Puis Bertrand Gerlet m'a écrit, puis il m'a dit, écoute, puis t'as déjà fait en plus le truc à Figura il y a quelques années, je pourrais héberger ton blog, puis ça pourrait être dans les archives du NT2, puis il y aurait peut-être de quoi faire avec ça. Il voulait me proposer un projet de peut-être d'analyse des archives de ma mère était hipster. Donc, j'ai eu cette chance-là que tout soit migré vers le NT2. Mais ça a été une bonne question parce que ça aurait pu disparaître. Moi, j'ai appelé la compagnie qui hébergeait In Extremis, puis il était comme, ben, je pense qu'on a tout effacé. Puis j'étais là, oh my God! Là, j'étais là, pourquoi c'est le coup? Parce que j'étais tellement... Ça vous montre quand même à quel point, quand je l'ai arrêté, j'étais fatiguée, j'étais tannée, j'en pouvais plus. Mais en même temps, par la suite, puisque ça s'est passé, ça m'a fait réfléchir, ouais, mais c'est du stock important à conserver. Donc oui, les archives, c'était pas juste une carte de visite, justement, parce que je voulais devenir journaliste. Je voulais pas devenir journaliste à la base. Fait qu'il y avait d'autres choses en arrière de ça. C'est les gens aussi qui ont travaillé là-dessus, il y en a qui travaillent au Devoir maintenant, il y en a qui travaillent au Voir, Journal de Montréal. Ça leur fait aussi une carte de visite, puis ça leur fait aussi un portfolio, entre parenthèses, de garder ça aussi. Donc, c'était vraiment important. Ça m'a comme un peu branlée, puisque je me suis dit, hey, mon Dieu, j'aurais été prête à tout laisser ça aller. Non, finalement. Donc, voilà, c'est sur le NT2, c'est disponible en ce moment. Puis, ils m'ont dit aussi que si jamais un matin, je me réveillais, puis j'avais envie de le relancer, ce serait possible. Je mentirais de dire que ça ne me passe pas à l'esprit de temps en temps parce que il n'y a plus beaucoup de critiques culturelles. Tous les jours, je trouve ça difficile de voir qu'il n'y en a pas ou peu, et soit qu'elle est complaisante ou soit qu'elle est insignifiante. Insignifiante, on va le dire. Donc, des fois, je me disais, puis là, je veux vraiment pas que ça sonne prétentieux, nous, on va le faire. C'est plus que ça n'en prend plus pour dire que la critique culturelle est importante. Pour moi, c'est en tant que société, en tout cas, je trouve ça dangereux qu'on n'ait pas de critique culturelle et de critique tout court, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre du recul sur ce qu'on fait. Si on n'est pas capable de prendre du recul sur ce qu'on fait, ça veut dire qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait, qu'on a peur de se faire dire ce qu'on est puis nos problèmes. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a une grosse nuance à faire entre non de la critique et de la critique constructive ou négative, n'est pas de la méchanceté. Il y a plein de gens, moi, qui m'écrivaient pour collaborer à ma mère et tes. Une des premières questions, est-ce que j'ai le droit d'être méchant? Pour vrai, là, je veux dire, noir sur blanc, puis j'étais comme, mais c'est quoi le rapport? Ben oui, mais si j'aime pas quelque chose, c'est pas être méchant. C'est dire, je n'aime pas quelque chose. Est-ce que ça sert vraiment l'artiste à m'amener de dire, c'est tout ce que tu fais, tout est bon, alors que c'est pas bon? Ça aide personne. Toi, ça aide pas ta crédibilité, premièrement, parce qu'il y en a, Mané, qui vont faire, ben c'est pas bon, là. C'est pas bon. Puis c'est ça, l'artiste, ça améliorera jamais. C'est une question, mais les gens ont fondamentalement peur de la critique négative. Il a même fallu faire un texte sur notre site qui s'appelait « Pourquoi on fait de la critique négative? » Parce que on avait eu le malheur de critiquer un roman d'une jeune auteure émergente et qui s'appelle, vous pouvez le voir encore sur le site, c'était « Les fantômes fument en cachette » de Milena Babin. Et on avait été trois dans le site à le lire. Il y avait moi, puis il y avait Daniel Grenier. Puis on avait très hâte de le recevoir, puis Jérémy Laniel. On avait très, très hâte de recevoir ce roman-là. On suivait la fille dans Montréal Campus, Québec Campus, en fait. Elle écrivait aussi sur les populaires, drôle, mordante et tout ça. On a trouvé le roman extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On avait tellement hâte de le... Tu sais, je veux dire, ça enlève aussi... Le critique ne part pas nécessairement en se disant « je m'en vais voir un show, puis je vais avoir lire un livre, puis je vais bâcher ça ». Non, on avait hâte de la lire. On avait vraiment hâte de la lire. On était fondamentalement déçus, puis on s'est dit, on s'est beaucoup parlé. On a travaillé pendant 2 semaines sur la critique, à se la renvoyer. Nous, on a toujours utilisé des Google Docs. En fait, quelqu'un déposait un document Word qu'on se connectait tout le monde, puis on chattait à côté pour dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Est-ce que c'est vraiment... Et surtout pour la critique négative, c'est d'autant plus important parce que une critique positive, les gens la décortiqueront pas. Ben, ils vont plus être contents, puis vous allez vous retrouver dans le journal, je sais pas, n'importe quel journal ou sur une affiche de poster, je disais tantôt, avec 4 étoiles. C'était bon, c'était un bon film, tu sais, ça va, les gens, ça va passer tout droit. Mais une critique négative qui est mal construite, elle va être vraiment, vraiment scrutée de tous bords, de côté, parce que l'artiste va se demander ce qui s'est passé, les amis de l'artiste vont venir le défendre, les relationnistes de presse ne comprendront pas, etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'elle soit d'autant plus solide. Donc, pour nous, c'est important. De là, le fait qu'on a fait, quand Daniel a sorti sa critique, c'est lui qui l'a écrit finalement, puisqu'on n'était pas sûr entre moi puis lui, il l'a mis sur les réseaux sociaux, puis il y a quelqu'un qui avait été marqué... faire une critique négative d'un roman d'une jeune auteure émergente, ça revient à aller trasher un party de maternelle. Mais je veux dire, la phrase était drôle, là, mais la personne était sérieuse, puis on était comme, mais voyons donc. Ça veut dire, à partir de combien de copies il faut que tu aies vendu de livres pour qu'on puisse te critiquer? À partir de... Comment ça marche? Je veux dire, tu sors un produit dans la sphère publique, il doit être critiqué. Il doit être analysé. Je veux dire, critiquer quelque chose, ça veut dire j'ai pris le temps de le lire. J'ai pris le temps d'apprécier l'œuvre, même si au bout du compte, ça ne me plaît pas tant que ça. J'ai quand même pris le temps de te lire au complet, d'analyser, de décortiquer ce que tu as fait. Je veux dire, c'est important, là. C'est vital, je pense, pour notre culture. Et ça avait vraiment mal passé. De là, notre texte sur pourquoi on fait de la critique négative. Et il y en avait qui étaient très contents qu'on ait sorti ça, mais il y en a d'autres qui étaient venus nous écrire et qui avaient dit, vraiment, vous êtes obligés de faire un texte sur pourquoi on fait de la critique négative. On a dit, ben oui, on se fait rentrer dedans depuis plusieurs jours parce que les gens disent, vous auriez pas dû parler de ce roman-là, alors, OK, d'accord, on va juste faire un site qui va s'appeler Coup de cœur. Tu sais, ça va être juste des coups de cœur tout le temps, ça va être, non, il faut des choses moins bonnes, des fois, il faut de la diversité. Il faut de la diversité, ce qu'il y a de moins en moins, en fait, parce qu'on veut juste des... Puis en plus, les médias, j'ai l'impression de ne pas arrêter de chialer, mais bon. Les médias sont rendus maintenant des boss-filles d'impuissance. On ne fait que des listes. On veut des listes. Je veux dire, je vois pas assez. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Au Journal de Montréal, les 22 vendeurs à éviter à Noël, dans le temps des fêtes, dans les magasins. C'est un texte, un long texte avec 22 raisons sur quel vendeur, quel type de vendeur tu devrais éviter pour que ton magasinage à Noël se passe bien. Ça m'étonnerait même pas qu'à la fin, ça soit commandité par la Place Ville-Marie. Non,
c'est en train de... On en discutait un petit peu tout à l'heure. Dans les médias traditionnels, oui, un peu complaisante, mais qui se garde bien de dire quoi que ce soit de négatif. Donc, on ne va retenir que finalement les valeurs sûres, si on veut, puis on va être très prudent, on va éviter de... Donc, je pense que ce qui a pu heurter aussi un peu le public, c'est de voir que non seulement il y avait une forme de critique négative, constructive, qui apparaissait, mais c'est aussi sur un média qui est comme pas encore légitimé et tout.
Si on veut.
Ça fait comme...
Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'il y avait souvent le « vous êtes qui, vous? » Pour dire que, tu sais, surtout qu'en plus, moi, la posture que j'avais sur ma mère et tes sœurs, ça a toujours été « si tu veux parler de cinéma, t'as pas besoin d'avoir fait un bac en cinéma. » Et ce n'est pas que je crache sur les études, au contraire. Sauf que je pense que oui, tu peux apprendre et être très compétent en apprenant par toi-même et en apprenant, en parenthèse, sur le tas. Et avec expérience. Je ne dis pas que demain matin, tu peux te lever et puis faire des critiques les meilleures. C'est en s'améliorant, c'est en travaillant des trucs. Mais c'est pour ça que je disais aux gens qui voulaient écrire avec nous, OK, on va le faire ensemble. Envoie-moi un exemple de texte, on va le faire ensemble. On va voir comment travailler un texte, comment faire de la critique. Puis c'est sûr qu'avec les années, moi aussi, je m'améliorais. On s'améliorait tous en faisant cet exercice-là. Mais oui, bien sûr, ça revenait souvent de « mais là, vous prenez pour qui? » Pour... C'est pas qu'on se prend pour qui que ce soit, c'est juste que... C'est ça, pour nous, c'était plus important de dire il faut de la critique constructive. Il faut que... Ben c'est ça, ça revient à une question de diversité, en fait. Puis, c'est pour ça que ça me démange, des fois, de repartir ça, même si j'ai pas l'énergie pour faire ça, puis j'ai pas... Puis, aussi, il faut le dire, puisque dans les deux dernières années de ma mère était hipster, je suis devenue aussi journaliste, et j'ai travaillé dans des grands médias où j'ai vu combien c'est payé du feuillet. Donc, faire travailler des blogueurs avec moi ou des journalistes, parce qu'ils devenaient un peu journalistes par la bande, je ne sais pas trop, on n'a jamais eu de posture claire là-dessus, j'étais de plus en plus mal à l'aise de ne pas payer personne. J'étais pas plus payée, j'ai pas été payée pendant 5 ans et demi. Là. Mais j'étais mal à l'aise, parce que je le sais combien ça coûte du feuillet, puis je le sais qu'il faut que tu en écrives en Christie des feuillets dans ton mois pour arriver là, comme journaliste. Là. Fait que maintenant, repartir en ne payant personne, j'aurais de la misère. Et moi-même, en n'étant pas payée, donner tout ce temps, alors que je sais combien de temps ça prend réviser des textes, corriger des textes, je sais pas. C'est ce qui me freine un peu, je dirais. Mais pourtant, il y a plein de gens qui offrent du contenu gratuit. J'en reviens à toi dans 2 secondes. Je pense à un site web que je ne comprends pas. Peut-être que vous le consultez et tout. Nerd City. Narcity paye ses blogueurs au like. C'est marqué dans l'offre d'emploi. Vous devez avoir un bon réseau et vous serez rémunéré selon votre performance sur les réseaux sociaux. J'ai le goût de pitcher des affaires quand je lis ça. Ça me sidère. L'écriture et le journalisme est rendu à rabais. C'est rendu à rabais, mais pourtant, c'est de la job, être journaliste. C'est pas des BS de luxe là, qui font ça. Là. Toutes les gens que je connais, soit sont en colocation, ils arrivent de peine et de misère. Hey, j'ai fait 24 000 cette année. Yeah. C'est comme, voyons donc. Venez dire que c'est des gros salaires. Excusez, là, je m'emporte, là, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ça soit payé comme ça. Ça n'a aucun sens. Excuse-moi, vas-y.
Ouais, c'est en fait, un peu pour revenir à ce qu'on disait, c'est au niveau des auditeurs qui lisaient le blog. Vous avez peur peut-être de justement perdre une grande clientèle à cause justement de perdre des gens qui vont lire votre blog justement à cause de votre, votre piquant?
Ben, les perles, si on embarquait dans ce dans le jeu de...
Ouais, je comme s'il y avait comme... Parce que, ben, parce que vous allez quand même avoir, vous semblez quand même avoir une base d'auditeurs, de gens qui vous lisaient, donc...
Mm-hmm.
Mais justement, vous n'avez pas peur que justement, quand vous alliez critiquer, mm-hmm. en sachant l'impact que ça a, ça
ouais, ouais.
De perdre justement des auditeurs ou d'avoir justement des
quand on faisait, mettons, la critique négative
ouais,
ou des trucs comme ça.
Des menaces ou quoi que ce soit. Des...
Non, ça faisait partie de la game. Puis les gens nous suivaient pour ça. Ils savaient, eux autres, que si on arrivait avec une critique du nouveau roman de tel ou du nouveau disque de tel, on n'allait pas être complaisant. Il allait vraiment avoir un avis honnête. Tu sais, je veux dire, tout, comment je pourrais dire, un produit culturel n'est jamais entièrement de la boîte, là. Il y a toujours des éléments intéressants. Je veux dire, il y a du travail en arrière de ça, même si toi, ça te plaît pas. Fait que c'est, nos critiques étaient constructives dans le sens où on disait, voici ce qu'il y a de l'allure. Tu sais, il y a des trucs qui ont de l'allure. Voici ce qui aurait dû être travaillé selon nous, selon notre avis à nous. Mais non, nous, on se disait pas, hey, les gens vont penser quoi. Mais ce qu'on faisait, par exemple, comme pour la fameuse critique qu'on était rentrés dedans, on a quand même pris un 2 semaines pour faire comme, OK, puisque la première critique que Daniel avait faite était encore plus dure que celle qu'on a mise sur le web. Puis on a dit, mané, OK, est-ce qu'il fait de la surenchère? Est-ce qu'il fait... Parce que lui, il a fini le roman, puis il était choqué. Tu sais, quand tu neuf, viens te chercher, ouais, mais je veux dire, en même temps, je trouve ça beau, tu sais, c'est facile à dire de l'extérieur, vu que je suis pas une artiste, l'artiste va faire comme, ben là, t'es fâché sur mon livre, mais ici, c'est de la passion, ça, tu sais, ton livre choque des gens, crime, c'est mieux que le désintérêt total, en tout cas, selon moi, mais il était fâché, Daniel, il était fâché, fâché, puis il a fait sa critique, elle était longue, elle était tellement longue, fait que là, moi puis Mathieu, on est rentrés là-dedans, puis on a retravaillé ça, puis on a fait, garde ça, ça se tient. Puis, il t'explique vraiment bien, parce que maintenant, il y avait 2-3 paragraphes de plus où il était comme tel personnage, ça n'a pas d'allure. Je suis comme Daniel, tu le dis au début, là. C'est correct, on a compris que, tu sais. Puis, il était comme, ouais, ouais, parce que ça sert à rien. Une critique, ça sert. C'est pas genre, on va t'enfoncer, là. On va. Toi, là, on te défait, on te. C'est pas ça, là, tu sais. C'est pas ça le principe. Fait qu'on, non, on n'avait pas peur dans ce sens-là. On savait que ça allait venir avec. Puis, on savait que dans le cas de celle-là, les éditeurs, qui est un nouvel éditeur, en plus, c'était chez Key numéro 5, chez XYZ. C'était une première mouture d'une première maison d'édition avec des jeunes auteurs. T'sais, c'est sûr qu'ils nous attendaient avec une brique un fanal. Puis, tu sais, je sais que Milena Babin, elle a été super, super déprimée de notre critique. Là. C'est sûr que c'est dur quand tu apprends ça par après, t'sais, parce que c'est une amie commune de quelqu'un que je connais. En tout cas, on la connaît les deux, puis mon amie était comme elle, vraiment, ça y est rentré dedans, puis j'étais le fuck. Mais tu sais, je l'aurais pas enlevé du site web. C'est ça qu'on pensait, tu sais. Puis je veux dire, ça reste la même affaire de. Ce qui est important pour nous, la critique, c'est tu viens de l'écrire, si tu rencontres l'auteur en personne, vas-tu être capable de dire oui, fine. C'est ça qu'on fait. Tu sais, je veux dire, je l'aurais rencontré en personne, je l'ai rencontré par après, mais non, on n'a pas parlé, c'était comme un sujet tabou. En tout cas, mais elle est super fine, elle est vraiment une fille brillante, puis. Mais tu sais, elle m'aurait dit, ouais, ta critique était rough, j'ai fait, ben ouais, ben, j'ai pas aimé ça. Mais, ce que j'ai dit par l'entremise de mon amie, c'est, j'ai hâte de lire son deuxième roman, parce que je me dis, j'ai hâte de voir comment qu'elle va retravailler ça. J'ai vraiment hâte. C'est pas une... Moi, ça ne l'a pas barré, puis au contraire, il y a plein de gens, nous, sur le site, qui nous disait, hey, c'est cool cette critique-là, ça me donne encore plus le goût d'aller le lire. C'était négatif pourtant. Ouais. Mais c'est parce que les gens voyaient une nuance, puis ils étaient comme, ah, je vais aller faire mon propre avis. C'est ça le principe. C'est un principe d'échange, de dire, va voir toi ce que t'en penses. Tu sais, c'est pas de. C'est ça. On était à l'aise parce qu'on savait qu'on démolissait pas personne. Parce que c'est pas le but ultime. J'ai vu quelqu'un d'autre, je pense.
Une question, Marina? Ah.
J'étais
juste curieuse sur d'où viennent vos lecteurs.
C'est un mélange des deux, mais je dirais majoritairement du Québec. Il y a eu 2 années où j'ai participé au... comment ça s'appelait? C'était le top des blogueurs ou un truc comme ça, puis c'était un top annuel de musique. Puis c'était plein de blogs ensemble francophones qui se mixaient pour faire un méga top de genre, je pense, 150 titres ou quelque chose comme ça. Là, ça a amené des lecteurs plus français, belges, des choses comme ça. Mais majoritairement, c'était des Québécois. Mais bien honnêtement, puis il y a des gens qui trouvaient ça vraiment drôle et à la fois bizarre. Je ne regardais jamais les statistiques du site. c'est Mathieu Charlebois qui le faisait pour moi parce que moi, pas que je me foutais des lecteurs, au contraire, mais moi, savoir que, hey, on a eu 15 000, ça m'intéresse pas de savoir ça, tu sais. Fait que je regardais jamais, mais je sais quand je suis allée voir quelques fois que c'était majoritairement québécois. Ouais. À peu près peut-être 25 France, 75.
Ouais. Moi, je me questionne vraiment par rapport au métier de journaliste, les jours-ci, puis par rapport aux études.
Je comprends pourquoi.
Parce que s'il y a très près le même modèle qu'ils ont depuis toujours, en ces jours-ci, je crois vraiment que ça ne marche pas.
Ouais.
Je pense qu'il faudrait plus. Je pense que même le marketing, c'est comme une partie essentielle de ton métier, c'est des journalistes, ces jours-ci. Puis juste pour reprendre l'exemple du vendeur, je ne sais pas trop quoi, un magasin de Noël, mais ça, pour les blogs, c'est ce thème qui fait le plus d'argent parce
bien
que
sûr.
Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une page à la fois.
Mm-hmm.
Là, tu es obligé de cliquer.
Ouais.
À chaque page, il y a des nouvelles annonces.
Ouais.
C'est comme ça qu'ils maximisent leur
profit. Bien sûr. Mm-hmm.
Alors, non, c'est dommage.
Mais c'est parce que ça existe, ça, c'est une chose. Que ça ne soit que ça, en ce moment, c'est un problème. Je comprends, tu sais, je veux dire, chez Châtelaine, ce qui était le plus payant, là, on faisait les articles du mois, mettons, qui était le plus payant, c'était, ce qui était le plus vu, c'était les shopping. Les shopping, on s'entend, la clientèle, c'est une clientèle féminine à qui on s'adresse. Bon, moi, je suis féministe dans la vie, fait que je dirais pas que c'était toujours facile de travailler chez Châtelaine pour ce côté-là, mais il y a quand même beaucoup de féministes qui travaillent là-bas, puis c'est un magazine vraiment chouette, pour vrai. Les filles qui travaillent là-bas sont vraiment géniales, mais c'était des shopping. On s'entend là, que comme contenu, là, à part des prix des marques, l'image, puis c'était payant parce que c'était une galerie photo. Donc, clic, 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 t'es payé à la page vue. T'sais. Quand j'ai quitté Châtelaine, en dernier, on venait de passer un mois et demi à travailler sur des... un contrat de... Parce qu'il faut le dire, là, ça rejoint ce que tu dis. Exemple, une compagnie comme Rogers, qui a Châtelaine, Loulou, L'Actualité, Châtelaine, en anglais. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Il y en a d'autres, là, il y en a vraiment plein. Et c'est pas caché, là, ça a été annoncé dans Infopresse et partout. Ils ont annoncé qu'eux feraient de plus en plus de collaborations avec des compagnies. Bon, plusieurs ont dit ça signe la mort du journalisme, ça n'a pas de bon sens, blablabla. Mais moi, je le voyais en travaillant là-bas. Le dernier mois, on a passé un mois et demi, trois employés presque temps plein à travailler non-stop sur des capsules, une collaboration avec Tylenol. Okay, on faisait la joke en plus. Là. Tu sais, je disais à ma boss, je dis ça n'a pas d'allure. J'ai dit, je finis mes journées, j'ai mal à la tête à travailler sur des... C'était absurde. Là. Mais il fallait tout le temps. Puis travailler avec les... Pour avoir travaillé aussi chez Nightlife, travailler avec les commanditaires, c'est la pire affaire. C'est comme, ils sont tellement piqués, ils sont tellement... Mais je comprends, parce qu'ils investissent tellement d'argent. Nous, on a une application mobile avec le Bazomag. Si à minuit, le mercredi, on a prévu que l'application était disponible, puis que ta pub de Nissan, je dis n'importe quoi, là, je ne sais même pas si on a une pub de Nissan, n'est pas online, elle ne fonctionne pas comme ils veulent, avec les crédits qu'ils veulent, avec l'image qu'ils veulent, c'est des milliers de dollars. C'est des milliers de dollars que le magazine peut perdre. Tu sais, puis un magazine comme Châtelaine, si tu regardes maintenant, je dis Châtelaine, c'est la même chose pour le Québec, le nombre de pubs qu'il y a là-dedans, ils n'ont pas le choix pour survivre. Je le sais que ça fait... Oui, je suis très critique, mais je le sais que ça fait partie de la game. Mais c'est sûr que quand on veut s'en aller vers le journalisme, moi, c'est sûr, je me pose beaucoup de questions. De là, je retourne à l'école en janvier prochain, puis tu sais, je m'en vais en sexologie. Aucun rapport. Mais ben, c'est un rapport parce que je risque de travailler dans les médias quand même encore. Mais tu sais, oui, ça me pose des grosses questions sur l'avenir du journalisme puis l'avenir des médias, parce que c'est très... C'est très difficile de travailler dans ce domaine-là en ce moment. Puis en plus, il faut savoir aussi, je ne vais pas être décourageante, mais il faut savoir que la paye au feuillet, le tarif au feuillet, quand je parle d'un feuillet, vous savez c'est quoi, tout le monde? Le feuillet en journalisme, c'est 250 mots. C'est un minimum, c'est 250 mots. Donc, 1500 caractères, ouais, 1500 caractères. Et ton tarif dans n'importe quel média va toujours être payé au feuillet. On appelle ça comme ça. Et le tarif au feuillet a baissé non-stop dans les dernières années. Tu sais, vraiment, là, ça peut varier d'une place à l'autre. Moi, j'en parle parce que je pense que ça doit être su et connu, ces tarifs-là. Mais tu sais, chez Nightlife, en exemple, j'étais payée 55 du feuillet. Puis chez Huffington Post, c'était 100$ pour 400 à 500 mots. On s'entend que c'est plate à dire, tu essaies de faire 400 mots. Là. Parce que, mais en même temps, écrire moins, c'est plus compliqué, puis ça prend plus de temps, fait que tu es toujours pogné. Tu sais, j'ai été déjà contactée, puis on m'avait proposé, ça revenait à peu près 10$ le feuillet. Non. Que, je veux dire, combien, que, comment je peux vivre? Tu sais, puis où j'ai été contactée, salut, on ne payera pas, mais on va te donner de la visibilité. Moi, je m'excuse, là, mais si je vais voir mon propriétaire, puis je dis, écoute, j'ai eu beaucoup de visibilité ce mois-ci. Est-ce que ça te dérangerait si on fait un troc en visibilité? Tu sais, genre, je ne vais pas te payer le montant que je te dois, mais tu sais, je vais parler de toi. Tu es un bon proprio. Voyons, tu sais, je veux dire, c'est comme... Non, mais ça n'a aucun sens, mais ça se fait de plus en plus. Puis tu sais, je l'ai vu aussi en partant de ma Marie Tapester, de voir d'autres blogueurs qui ont parti en même temps que moi, puis qui ont joué le jeu. Puis je peux pas leur en vouloir parce qu'ils voulaient faire leur place. Puis il y en a là-dedans aussi qui voulaient devenir journaliste puis qui voulaient être connus. Puis c'est correct, c'est tout à fait noble, il n'y a pas de problème, sauf que on entre dans une game. On entre dans une game, un jeu qui fait que, à la longue, ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde.
Ce qui est surtout vicieux, c'est quand on peut lire les annonces dans les articles eux-mêmes.
Ouais.
Un article, en apparence, un article vraiment bien formaté, introduction, développement,
conclusion,
mais au milieu, c'est une marque.
Ouais.
T'as quelque chose qui fait référence à un problème qui peut être juste résolu par ça.
Ouais. Tout à fait.
Ça, c'est ce qui est le plus inquiétant.
Ah oui. Ben tu vois, Mané, moi, chez Châtelaine, j'étais au web, donc j'entrais tous les articles du magazine, puis on les mettait sur le web pour que ça, les gens y payaient pour avoir accès à ça. Puis Mané, je feuillette le magazine, puis tu sais, j'ai un côté foodie, là, j'ai déjà eu un blog de bouffe en plus. Puis je feuilletais, les photoshoots de bouffe de Châtelaine sont toujours vraiment magnifiques, là, sérieusement, c'est super beau. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, ça a normalement l'air bon cette recette-là. J'avais pas vu que vous aviez fait un photoshoot sur ça. J'ai dit ça à la responsable de la section, elle fait non, check, c'est une pub. Mais c'était fait, ça suivait tout le reste du photoshoot dans le même esprit, les mêmes couleurs, les mêmes. Fait que j'étais là, hein? J'étais sûre que c'était un truc, tu sais, je veux dire, ça faisait quand même un an que je travaillais là, je les connaissais, les photoshoots de Châtelaine, là, puis j'étais là, ben voyons donc. Puis c'est quand même trompeur. Puis moi, au magazine, j'étais un peu choquée, j'étais comme, mais là, come on, hein. Tu sais, la personne, dis-le que c'est une pub, tu sais, dis-le. Oui, c'était marqué, mais c'était tellement petit que c'était, mais c'est ça, fait que, puis c'est dur de se battre dans ce milieu-là où la pression est tout le temps présente. « Hey, parle de telle affaire, parle de telle affaire. » Tu sais, c'est pas rare chez Nightlife que je recevais des courriels. « Salut, mon artiste sort son album dans 2 semaines. Comment on s'organise pour la promo? » Hein? Comment on s'organise pour la promo? Je sais pas. C'est quoi, toi, ton plan de match? C'est ta job? Tu sais, fallait tout le temps dire « C'est pas ma job. Ma job, c'est d'être journaliste. Ma job, c'est de critiquer l'album une fois qu'il va être sorti, de parler de la carrière de l'artiste. Voici, c'est son 5e album, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas de faire la promo. Tu sais, je me rappellerai toujours, j'en revenais pas les gens, j'avais publié sur mon Facebook, j'avais reçu un courriel. C'était une petite compagnie de promotion pour un band québécois, un excellent band québécois, mais le band n'avait même pas été au courant en plus. En tout cas, il avait écrit un courriel, puis il avait dit « Bonjour les journalistes, blogueurs et influenceurs, évidemment. On vous propose quelque chose. La personne qui va partager le plus notre publication Facebook sur l'annonce de ce show-là va gagner un accès VIP avec nos artistes pour faire une entrevue. » Puis vraiment, là, j'ai pris 2 secondes, là, j'ai fait comme, tape, j'ai relu, là, j'ai fait comme, hein, ça se peut pas. Puis là, j'ai mis ça sur Facebook, puis je leur ai écrit après, j'ai fait comme, j'étais tellement choquée. Tu sais, en fait, ils considèrent vraiment les journalistes, premièrement, comme des groupies d'artistes. Hey, tu vas rencontrer nos artistes. Non, ça n'a pas rapport. Tu sais. Tu vas partager et tu vas gagner un concours pour accéder aux artistes. Ça en est rendu là, tu sais, ça date de peut-être 1 an et demi, cette affaire-là, là. C'est quand même récent. Les gens, il y a tellement une infobésité sur les réseaux sociaux et toutes les compagnies demandent faut que tu sois là, faut que tu sois là tout le temps, faut que. Tu sais, puis ils engagent les gestionnaires de communauté. Bon, ça, c'est un domaine dont je pourrais vous parler, à rabais aussi. Tu sais, il y a tellement d'informations que les compagnies, peu importe quelle compagnie, essaient sans arrêt de se renouveler. Et ce qui est dangereux pour les médias, c'est que les compagnies maintenant font leur propre matériel autopromotionnel. C'est pas rare qu'un... écoute, une compagnie d'automobile pourrait être super bonne à faire du contenu viral. Ça se peut, là. Si tu gères bien tes affaires, là, ça se peut qu'une fois par semaine, tu demandes à, je sais-tu, moi, à ton concessionnaire, on fait une petite vidéo, on parle entre nous autres, puis on parle je sais pas, de ce qui va se passer en politique concernant le transport en commun, n'importe quoi, tu sais, qu'il y a un lien avec ton... Tu peux devenir vraiment une espèce de roi de ton marketing puis de ton contenu. Fait que les médias, maintenant, doivent se battre avec cette situation-là que tout le monde est son propre média. Et surtout les compagnies qui sont présentes non-stop. Tu sais, moi, je fais de la gestion de communauté pour Bazo, le Bazo Mag, Bazo TV, pour l'émission Lire. Tu sais, l'émission Lire, c'est un bonbon. Enfin, ça, c'est le fun parce que c'est une communauté littéraire et tout ça. Mais cette année, par exemple, ils ont investi de l'argent dans le site web et ça se sentait dans « Pousse-le, ma belle, parce qu'on veut qu'il y ait du clic. Let's go, let's go! » Alors que les deux des années d'avant, c'était beaucoup plus lousse, c'était beaucoup plus « Bah, fais ce que tu veux. » Parce que non, non, là, ils ont mis de l'argent, fait qu'ils veulent que ça rapporte. Quand j'ai travaillé au Sanfi, un des premiers directeurs qui était là... voyait un lien de cause à effet direct à... Il nous écrivait un courriel le matin, il y avait une projection de film le soir. « Vous n'avez pas assez vendu... faites la promotion du film sur nos réseaux sociaux. Il y avait 10 personnes dans la salle de cinéma hier. J'attends un rapport d'ici ce soir sur pourquoi ça n'est pas vendu. » Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre « Je fais un post Facebook puis les gens achètent automatiquement. » Ça ne marche pas de même. Je veux dire, tu ne peux pas les forcer... sur 15 000 personnes sur cette page-là, il y en a peut-être 2 000 qui ont vu la publication. Il y en a peut-être 2000. Sur les 2000, il y en a peut-être genre 5 qui ont fait comme « Ah, pff, peut-être y aller. » Peut-être pas. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Mais ça, il faut se battre continuellement pour faire comprendre à ces compagnies-là, à ces dirigeants-là, qui souvent ne sont pas du tout des natifs du web, que ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est tout ça. On est tout le temps pogné un peu dans ces paradigmes-là qui sont difficiles puis qui, oui, je reviens à ce que tu dis, qui pose beaucoup de questions pour l'avenir du journaliste. J'ai pas été, c'était le congrès de la FPJQ en fin de semaine, la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Je sais pas les conclusions de ça, mais je voyais passer leurs tweets, puis je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur l'avenir des médias, l'avenir du journalisme. Moi, je pense que, c'est sûr, tout le monde est tanné d'entendre parler d'une crise des médias, mais elle est là, elle est réelle. Puis je pense qu'on doit se poser de grandes questions sur ce qu'on va faire avec ça, puis renouveler... se renouveler, se questionner sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est comme média, chaque média. C'est pour ça que là, il y a Huffington Post qui a sorti une version long read. Ça s'appelle Highline. C'est super bien fait et c'est des reportages très, très longs avec du multimédia et tout. Il y a Al Jazeera US qui le fait aussi. Il y a un site qui s'appelle longreads.com où c'est que des textes longs. Ça te met en plus le nombre de minutes que ça prend. Ça, je trouve ça un peu absurde, parce que je me dis, tu lis du long, laisse aller les choses. Mais c'est ça, on est tellement tout le temps dans une course contre la montre pour tout savoir, pour tout lire, pour tout... Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un gros stop. Je vous inviterais d'ailleurs à lire, si ça vous intéresse, un texte de Catherine Voyer-Léger qu'elle a publié... en début d'année, ça s'appelait « Février épuisé ». Elle a dit qu'en fait, ce qui fait qu'on est dans une buzzfeedication des médias, des listes et tout ça, puis qu'elle-même, elle s'est rendue compte que c'est une critique culturelle très, très... elle s'intéresse beaucoup, en fait, à la critique culturelle. Elle a fait le livre « Métier critique » qui vaut vraiment la peine si la critique vous intéresse, là, qui est vraiment intéressant. Donc, elle se penche beaucoup sur la critique, sur le milieu, comment ça fonctionne. Puis elle disait « J'étais rendue à écouter, genre... je ne sais plus quelle émission elle nommait, là, je vais nommer n'importe quoi, là, mais j'ai entendu écouter Le Banquier, puis je trouvais ça vraiment le fun. J'avais tellement plus de cerveau que j'étais comme « Ah, c'est parfait ». Elle dit « Je pense que fondamentalement, ce qui arrive en ce moment, c'est que notre société est épuisée. » Tu sais, tu rentres chez vous, tu as des journées de fou, tu es allé à l'école, tu as travaillé, as-tu vraiment le goût de te pencher sur un essai philosophique de Michel Onfray? Tu sais, je suis pas sûre. Moi, je veux dire, à Mané, j'ai eu bien du fun à écouter genre Sweeting Can Dance. Là. C'était assez basic. Il y avait du talent en danse et tout. Mais il y a des choses, je pense que c'est important qu'il y ait des choses un peu no-brainer, un peu des... Je ne vais pas dire no-brainer, c'est pas no-brainer, mais un peu plus facile, un peu plus léger, mais il ne doit pas y avoir que ça. Mais je pense que ce que Catherine disait, je suis assez d'accord, que je pense qu'on est fatigué, ce qui fait qu'on a besoin d'entertainment. On a besoin de... Tu sais, on pense à Radio-Canada, c'est de la... Ils disent toujours, c'est de la radio d'été. On va faire ça léger, on va... Je pense, qu'est-ce qu'il y avait, là, comme ça, à Radio-Can avec Marc Hervieux, là? Genre, c'est l'été, je sais pas quoi. C'était des émissions niaiseries, là, l'été, à TVA puis à Radio-Canada. Moi, je m'excuse, mais j'ai le même cerveau l'été que l'hiver. Tu sais, j'ai pas de... ça arrête pas l'été. Moi, je suis pas, au primaire où j'ai l'été au complet à rien faire. Tu sais, je continue, mon cerveau continue, j'ai besoin d'être alimentée intellectuellement, j'ai besoin qu'on me prenne pas pour une niaiseuse à l'année. Fait que, tu sais, moi, quand je vois des émissions avec, je dis Marc Hervieux, qui a l'air d'un gars super sympathique, mais c'est juste comme, on parle de voyage, là, on change, on va aller voir Kimchi, on fait une soupe, tu sais, c'est... Arrêtez, je t'en ai. Oui, vas-y.
Il n'y a pas aussi l'autre point de vue où les médias sont totalement biaisés et n'arrivent pas à nous parler de la violence en continu et du coup ils se focalisent sur la négativité en quelque sorte du monde et du coup c'est totalement l'autre bout des possibilités quoi, mais ils sont très négatifs et nous poussent vers une image sombre et dévastatrice du monde.
Ben, je te dirais, je vois les deux. Je vois de la pop bonbon, tu sais, vraiment insignifiante et tout. Je vois aussi du... tu sais, on l'a vu récemment avec les attentats de Paris, entre autres. Tout le monde devait dire son mot là-dessus. Tu sais, c'est horrible ce qui se passe, mais plein de gens aussi ont soulevé le fait que... Mais ça se passe ailleurs, tout le temps. Est-ce qu'on peut se garder une petite gêne, tu sais? Mais effectivement, il y a souvent... tu sais, je veux dire... Moi, personnellement, je vais redonner l'exemple, parce que c'est un exemple absurde, mais je disais tantôt, les 22, il y a tout le temps ce texte-là qui sort, là, les 22 festivaliers à éviter à Oceaga. T'sais. Moi, je m'excuse, mais j'aurais jamais pensé qu'à Oceaga, je devais éviter des gens. Je comprends. T'sais. Fait que ça amène une négativité qui est comme un côté critique qui n'est pas critique, qui est comme, je sais pas, qui est plutôt jugeons-nous, ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Fait que je vois les deux. Soit que c'est vraiment de... pas tout va bien, mais c'est comme on te propose du bonbon, tu sais, on va faire des recettes, on va faire du... Puis de l'autre côté, t'as cet aspect-là, effectivement, qui est... C'est comme très polarisé, en fait. Il n'y a pas tant de nuances, malheureusement. Il y a que... Oui?
J'aurais plus dit que ce serait la paresse plutôt que la fatigue, parce que...
Ouais.
Mais ce serait plutôt inconscient, parce que depuis que les réseaux sociaux ont gagné leur popularité, on est vraiment dans une époque où est-ce qu'on valorise l'image plus que d'autres choses. C'est quelque chose que... qui nous saute direct dans notre face.
Ouais.
Tandis que pour lire un texte, pour avoir un esprit critique quelconque, il faut que tu puisses sortir de la première impression du titre pour voir à l'intérieur.
Ouais, ouais, ouais.
Puis,
mais tu vois, c'est important ce que tu dis, parce que tu parles justement du titre des unes. Tu sais, quand on a une population au Québec qui est à peu près à, je pense que les stats, c'est quoi, 48% de gens qui sont analphabètes. Tu sais, c'est pas vrai si on pense aux débordements qu'ils ont eu sur le NICAB, par exemple. Parce que j'ai travaillé sur ce dossier-là. Tu vas pas lire pour t'informer un long essai de je sais pas quel spécialiste pour dire je vais aller voir des trucs nuancés quand tes capacités de lecture et de compréhension sont limitées. Tu vas lire les unes. Mais le problème avec ces unes-là dont tu parles, qui nous pop, là, c'est qu'ils vont juste lire les unes. Fait que, tu sais, si un journal un peu sensationnaliste va titrer, je sais pas moi, « Des niquables partout à Montréal », il y en a pas, des niquables à Montréal, il y en a pas, tu sais. Fait que ça biaise les affaires. Tu sais, moi, pour le Bazoumac, j'ai fait un reportage sur le Tchadar. Puis, tu sais, nous, on a niaisé parce qu'on a fait un genre de cover qui était comme un film d'horreur, puis on a appelé ça le retour du tchador. Mais c'était pour dire, il n'y en a pas de tchador. Aucune femme porte le tchador au Québec. En plus, c'est fait main, le tchador. Il faut vraiment que ça se fait dans la famille et tout. Ça n'a aucun rapport. Personne ne porte ça. Mais c'est à cause des unes. Nous, on s'est informés sur les unes qu'il y avait eu dans l'été. C'est à cause de la loi qui vient d'être instaurée. Bien, qui a passé, finalement. Bref, je ne sais plus, 62 ou 59, je me mêle entre les deux, entre la radicalisation puis la... En tout cas, toutes les unes qu'on a cherchées étaient tellement un peu effrayantes, comme t'es comme, mais les gens...
Quand il y avait une femme qui était morte dans le métro, à cause de
ça,
oui.
Titre du journal de Montréal, femme meurt étranglée par son hijab dans le métro.
Bien oui, bien sûr, tu sais, c'est comme... C'est pas finalement, je pense qu'elle apportait même pas des jobs.
Non, mais c'était. Le titre était juste, mais tu peux pas écrire ça comme titre.
Non.
Tu peux pas. Femme meurt dans un accident de travail.
Ben non, je sais.
Mais le problème, c'est que le titre comme ça, ça vend plus.
Exact. Ben c'est, oui, tout à fait.
C'est pourquoi le géant de Montréal, c'est. Le géant de Montréal, mais.
Ben oui, oui,
c'est,
oui.
C'est le journal qui vend le plus.
Ben oui, tout à fait.
Du Québec.
Ben oui.
C'est,
puis eux, ils reprennent le principe.
Épouvantable.
Tout à fait.
Mais ça vend. Parce que des gens aiment les
ouais.
choses
ouais, choquantes. Ouais. Ouais. Ben, ils reprennent le même concept des tabloïdes,
oui,
là,
oui,
des
exactement.
Magazines à potins.
Oui,
c'est le même principe. Ça marche parce que les gens sont comme « Hein, t'as-tu vu ça? » Parce que c'est des conversations de machine à café là, qui
ouais,
alimentent,
ouais.
C'est du human interest. C'est, les gens ont besoin de ça à quelque part. Il
ouais.
n'y a pas tant d'éducation qui est faite non plus là-dessus.
Non.
deux dernières questions.
Justement, par rapport à ça, comme les gens préparent le vraiment les opinions à des
mm-hmm.
faits.
Ouais.
Quand tu vas arriver sur une question comme le job, quoi, tu vas dire, j'ai fait mes recherches, j'ai des faits, c'est ça, sur Paris. Les gens vont être comme, ok, mais t'es plate. Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi
ouais.
tu as une opinion mitigée?
Ouais.
Faut
ouais.
toujours être dans l'extrême, faut toujours,
mm-hmm.
tu sais, comme se fier plus aux opinions de nos entreprises, de l'abondance,
c'est ça.
Qu'est-ce que c'est basé sur. Maintenant, les gens ne veulent plus faire de recherche, ils ne veulent plus savoir la vérité, on dirait.
Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que. Comment je pourrais dire? Ben, tu sais, tu viens de nommer les attentats de Paris. Tu vois, il y avait tellement de surenchères. Moi, alors que je suis quelqu'un qui est assez active sur les réseaux sociaux, ça doit faire à peu près 15 jours que je n'ai rien publié parce que je trouve qu'on dirait que tout est insignifiant pour moi. Mais moi, c'est sûr, j'ai des bouts radicales là, où je suis comme, là, j'ai ça, je veux tout lâcher. Juste, bon, ça, c'est moi, mais tu sais, j'en ai parlé à quelques amis autour de moi qui sont aussi en journaliste et qui étaient comme, il y a trop, c'est trop. À un moment donné, c'est. Puis. C'est tout le temps dans le, comme tu disais tout à l'heure, dans l'horreur, dans le regarder ce qui se passe là-bas, c'est terrible, cette vidéo, nana. Tu sais, Mané, t'es comme, mais voyons, Christy, ça va-tu si mal que ça? Puis ça va-tu. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a jamais de nuance. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est absurde, tu sais. Puis quand c'est arrivé, les attentats de Paris, c'est ça que j'ai marqué. C'est la seule affaire que j'ai marquée. J'ai dit, c'est fou de voir à quel point mon fil de nouvelles en ce moment est. Il y a une solidarité humaine très belle avec Porte Ouverte que je voyais beaucoup passer et l'horreur live que tu pouvais voir. Je dis alors que mon fil Facebook habituellement est rempli de photos de chats et de vidéos de chats. Je veux dire, c'est comme. Puis c'est pas pour rien aussi qu'il y ait des vidéos de chats, puis ça a été étudié scientifiquement, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est comme un break dans ton fil de nouvelles parce que tout est tellement sombre, tout est tellement. Mais c'est le manque de nuances, je pense. Puis oui, on se fait dire qu'on est plate. Puis comment tu peux en parler de façon punchée? Tu sais, comment tu peux amener le cadavre? Christy, on parle du cadavre. Je veux dire, je peux pas être si punchée que ça. Ça a une histoire très longue et ça a un poids très lourd hein, pour les femmes, pour la société, pour l'histoire de l'Iran. Tu sais, ça me tente pas de faire hey, question quiz, on va parler du cadavre. Je suis pas une animatrice de camp. Tu sais, non, je vais pas faire ça. Il y avait une autre question, mais je sais plus.
C'est plus un commentaire, une question, mais comme j'ai remarqué vraiment avec les réseaux sociaux, on dirait que c'est tout le temps instantané. C'est tellement
ouais.
rapide que les gens, peu importe qui, ne prennent plus la peine de réfléchir sur un sujet
non.
avant de donner leur opinion. Pourtant, on a appris ça pour tout le long du secondaire. Pour argumenter, pour être capable de donner une opinion, pour que tu réfléchisses, pour que tu fasses des recherches,
ouais.
pour que tu te recueilles, pour
ouais.
que tu réfléchisses à ça. Puis on dirait que ça rabaisse le niveau du journaliste.
Parce que
t'es
dans
quelque chose de garocher.
T'es dans l'émotion. T'es pas dans le réfléchi, t'es dans l'émotion. Pourquoi tu penses, il y a deux semaines, quand tu as eu le fameux Flushgate, plein de gens sur Facebook ont relayé un article à vie d'ébullition. Non, il date de 2011, l'article.
Ouais.
Regarde-le. Des journalistes ont relayé ça, tu sais. C'est une faute journalistique là, de dire tu fais pas tes recherches. Ça veut dire que tu ne fais pas tes recherches. Puis le journaliste, c'est ça sa job, d'aller chercher, de dire est-ce que ce sont des faits avérés? Oui, voici. Tu sais, fait, effectivement, mais c'est ça, tu as raison, on est dans l'émotion pure, fait que c'est comme oh mon Dieu, j'en reviens pas. Ouais, mais peut-être que 2-3 heures après, en y pensant bien, tu étais plus nuancé sur la question, mais c'est parce qu'on est. C'est la recherche du like, du clic, on veut être aimé. Moi, je trouve que ça montre, en fait, à chaque fois, ça peut-être sonner dramatique, mais une solitude profonde des gens devant leur écran, devant leur. Moi, plus ça va, honnêtement, ça, c'est très personnel, mais plus je fais des breaks de réseaux sociaux. parce que mentalement, j'ai pas le choix, parce que je veux voir les gens. Si je vais souper avec quelqu'un, tu verras jamais mon cellulaire sur la table. C'est un no way. Je veux pas être dérangée. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis pas avec mes 12 000 amis Facebook. On est ensemble! Hey! Il y a un moment donné, là, excusez, j'ai vraiment de la misère avec les selfies. Mais c'est ça. Mais je reviens à dire, c'est important pour moi de le dire, je suis vraiment critique des médias. C'est ma position à moi. Tu sais, tout n'est pas mauvais non plus. Moi, j'ai certaines positions. Je veux dire, je le dis depuis le début, je pense que mon jupon dépasse. Vous voyez un peu où je me situe. Je sais très bien que je n'irai pas travailler dans certains médias. Puis que je. Puis c'est pas que je suis barrée, c'est juste que moi, j'ai décidé que je ne ferai pas telle ou telle ou telle affaire. Puis je pense que c'est important, si vous voulez faire une carrière de journaliste, de réfléchir à avec qui vous collaborez, avec quel média vous collaborez. Est-ce que si vous avez fait cette collaboration-là, dans 5 ans, vous allez vous en mordre les doigts et dire « Christy, je ne mettrai pas ça sur mon CV ». Mais des archives, ça se trouve vite. Ce que vous dites sur Facebook, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est libre de parler sur Facebook? Est-ce que vous avez le droit de dire? C'est des questions importantes à se poser dans ce milieu-là, si ça vous intéresse ou si vous êtes déjà dedans.
Mais dans n'importe quel milieu, ben, vous pouvez toujours mesurer les concessions qu'on a pu en faire.
Tout à fait, tout à fait. Voilà.
Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous.